Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast, Page d'Émeraude.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, Ernest Hemingway. Et plus précisément, son style. Cette écriture si reconnaissable.
Ah oui, unique même. Simple en apparence, direct.
Oui, on dit souvent dépouillé, presque brutal. Mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est si simple au fond? C'est un peu la question qu'on va creuser.
Exactement. Il y a beaucoup plus sous la surface.
Alors, pour nous guider, on s'appuie sur une analyse assez fouillée, intitulée « Le style Hemingway, mythe, trauma et discipline littéraire ».
Une source qui essaie de démêler un peu tout ça, oui.
Voilà, l'idée c'est de comprendre comment cette écriture s'est forgée, d'où elle vient, quelles sont ses marques de fabrique, et surtout comment elle dialogue avec les thèmes forts chez Hemingway. La guerre, la violence, l'amour, la mort. Et avec sa propre vie, qui était pour le moins mouvementée.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'analyse aborde aussi la réception de son œuvre, l'héritage.
Et ce fameux paradoxe Hemingway, n'est-ce pas? D'un côté, l'écrivain majeur, l'artiste exigeant, sensible même. Et de l'autre, ce personnage public, Papa Hemingway, le macho, le baroudeur.
Un mythe qu'il a lui-même largement contribué à construire d'ailleurs.
Tout à fait. Et cette tension entre les deux, entre l'homme privé et l'image publique, elle est peut-être essentielle pour comprendre son art. Et donc ce style, qui nous paraît si limpide, eh bien c'est sans doute une construction bien plus sophistiquée qu'on ne le pense.
Absolument. Un artifice très travaillé.
Bon, alors, pour comprendre cette construction, il faut remonter un peu aux origines. L'analyse pointe deux expériences fondatrices. Le journalisme, d'abord.
Oui. Son passage très jeune au Kansas City Star, ça a été déterminant. C'est là qu'il a appris les bases. Les phrases courtes, les faits d'abord, la chasse aux mots inutiles, l'économie, la précision.
Une école de rigueur, en somme.
Tout à fait. Et ensuite, bien sûr, il y a eu le choc. Le choc de la guerre.
La Première Guerre mondiale, son engagement comme ambulancier sur le front italien.
Où il est très gravement blessé, en 1918. Ça le marque à vie. Puis, il y a son expérience comme correspondante de guerre, notamment pendant la guerre gréco-turque.
Et ça, selon la source, ça lui donne quoi? Une sorte de légitimité?
C'est ça. Une autorité inhabituelle, dit l'analyse, pour décrire la violence, les conflits, la mort, les paysages dévastés.
Il a vu, il a vécu ça de près. Et son ambition, affichée en tout cas, c'était...
D'écrire les choses simplement.
Oui. Écrire ce que j'ai vu et connu de la meilleure et de la plus simple manière. Simple, mais c'est là que ça devient intéressant.
Parce que cette simplicité cache une technique très spécifique qui est devenue sa signature, le fameux principe de l'iceberg.
Exactement. Et c'est lui qui en parle le mieux d'ailleurs. Il dit, attends, je crois que j'ai la citation, voilà. J'essaye toujours d'écrire sur le principe de l'iceberg. Il y a 7 huitièmes de celui-ci sous l'eau pour chaque partie qui se montre.
7 huitièmes sous l'eau, c'est énorme.
Oui, oui. Et il ajoute, tout ce que vous savez, vous pouvez l'éliminer et cela ne fait que renforcer votre iceberg. C'est la partie qui ne se montre pas. Donc, ce n'est pas juste être concis, hein. C'est une stratégie délibérée d'omission.
On ne dit pas tout, loin de là. On suggère.
On suggère énormément. L'idée, c'est que ce qui est omis, ce qui est caché sous la surface, donne sa force, sa profondeur à la partie visible. Ça crée une tension, une émotion latente.
Et là, l'analyse fait un lien très fort entre cette technique de l'iceberg et le trauma, particulièrement le trauma de guerre.
Oui, c'est une lecture vraiment éclairante, je trouve. L'idée, c'est que les expériences vécues au front étaient tellement intenses, tellement indicibles, quelque part, que les raconter directement aurait risqué de tomber dans le pathos, le mélodrame. Et ça, Hemingway y détestait ça.
Il voulait éviter le sentimentalisme à tout prix.
Bah, donc, l'omission, l'iceberg... Ça devient une manière de maîtriser ce trauma, de le contenir, de le laisser infuser dans le texte sans l'exposer crûment. L'émotion est là, très forte, mais elle est sous-jacente, implicite.
Et c'est au lecteur de faire une partie du travail alors.
C'est exact.
De ressentir ce qui n'est pas dit.
Tout à fait. Le lecteur est actif, il doit combler les blancs, sentir le poids de ce qui manque. Le détachement apparent, hérité du journalisme, devient ici un outil littéraire super puissant. Presque une sorte de catharsis, mais maîtrisé, contenu.
C'est intéressant. Ça donne une dimension presque philosophique à ce style, finalement. Ce n'est pas juste une question de technique.
C'est ce que suggère un critique comme Robert Penn Warren, cité dans l'analyse. Il dit qu'Hemingway écrit à une époque où les grandes valeurs, les grands discours, ne tiennent plus vraiment la route, après la Première Guerre mondiale notamment.
Le désenchantement, la génération perdue.
Exactement. Dans ce monde où les repères s'effondrent, la vérité ne peut plus être affirmée de manière abstraite. Elle doit être montrée. Par des faits concrets, des actions précises, des dialogues qui sonnent justes.
Donc, la phrase courte, le style direct, ce serait une forme d'honnêteté ? La seule manière fiable de dire le réel tel qu'il l'a vu et connu, comme il disait ?
C'est un peu l'idée, oui. Une sorte d'éthique de l'écriture, presque. Refuser l'emphase pour coller au plus près de l'expérience vécue, brute.
Et cette force, cette actualité, comme disait Wallace Stevens, ça a été reconnu assez vite, non ?
Ah oui, très vite. Dès ses premiers livres, des critiques importants comme Edmund Wilson ou Malcolm Cowley sentent qu'il se passe quelque chose de neuf, de radical. Wallace Stevens, le poète, va même jusqu'à dire qu'il est le poète le plus significatif de son temps.
Poète, c'est étonnant pour un romancier.
Oui, mais Stevens l'entendait au sens de quelqu'un qui capte l'essence du réel avec une intensité particulière, ce qu'il appelle une extraordinaire actualité, une présence incroyable du moment présent dans l'écriture.
D'accord. Alors, si on rentre un peu plus dans les caractéristiques concrètes de ce style, on a parlé de l'économie de mots, c'est vraiment sa marque de fabrique.
Oui, un style dépouillé, comme dit la source, scrupuleusement vidé de tout ce qui est superflu, surtout les adjectifs abstraits, les adverbes, pour une clarté, un impact maximal.
J'aime beaucoup la métaphore de Ford Madox Ford que cite l'analyse. Les mots de Hemingway vous frappent, chacun, comme s'il s'agissait de cailloux fraîchement cueillis d'un ruisseau. Ils vivent et brillent, chacun à sa place. On sent le côté concret, solide, presque physique des mots.
C'est très juste. Il y a une matérialité dans son écriture. Et cette économie, cette volonté d'aller à l'essentiel, elle passe aussi énormément par le dialogue.
Ah oui, les dialogues chez Hemingway. C'est souvent là que tout se joue, non ?
Souvent, oui. Bien plus que dans la narration descriptive ou l'analyse psychologique directe, ce sont les échanges entre les personnages qui révèlent leurs failles, leurs désirs cachés, les tensions sous-jacentes.
Vous avez un exemple en tête ?
Ben, l'exemple classique, c'est dans Le Soleil se lève aussi. La toute fin, quand Lady Brett Ashley dit à Jake Barnes « Oh Jake, we could have had such a damned good time together ». En français, on aurait pu passer un sacré bon moment ensemble.
Une phrase toute simple, en apparence.
Toute simple, oui. Mais elle charrie une charge émotionnelle énorme. Tout le regret, tout le désenchantement, l'amertume, l'amour impossible de cette génération perdue. Tout est là, condensé dans cette petite phrase. C'est ça la puissance du dialogue hemingwayen.
Mais parfois, ces dialogues sont étranges, non ? Ils peuvent sembler très plats, superficiels, décousus même. On a l'impression qu'ils parlent pour ne rien dire.
C'est vrai. Et c'est un autre aspect fascinant. Souvent, les personnages parlent de choses triviales, de la pluie et du beau temps, ils commandent à boire. Ils évitent soigneusement les sujets importants, les sujets qui font mal.
Pourquoi ? C'est une forme de protection ?
Exactement. C'est une manière de masquer la souffrance, le vide, le fameux nada dont on parlera. Parler de futilité pour ne pas avoir à affronter l'angoisse existentielle. C'est un code, en fait. Ce langage simple, fragmenté, c'est un code pour exprimer, ou plutôt pour ne pas exprimer, des émotions bien plus complexes. Il faut lire entre les lignes.
Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Je crois me souvenir d'une critique assez violente. Wyndham Lewis.
Ah, Wyndham Lewis. Oui, il n'y est pas allé de main morte. Il a carrément dit que les personnages d'Hemingway parlaient comme des faibles d'esprit, des idiots de village stylisés. Une critique restée célèbre.
Eh, il avait tort.
Disons que, selon l'analyse qu'on suit, c'est une lecture très superficielle. Ce langage n'est pas celui de la bêtise, c'est plutôt celui de la retenue, de la pudeur face à la douleur, peut-être même d'une forme de courage stoïque. Le silence, ce qui n'est pas dit, est au moins aussi important que les mots prononcés.
C'est ce paradoxe que soulignait aussi Edmund Wilson, au début en tout cas, une simplicité qui cache une grande complexité.
Tout à fait. Et un autre point clé, c'est l'accent mis sur les sensations physiques, l'expérience immédiate, plutôt que sur l'introspection ou l'analyse intellectuelle. Tony Tanner parle d'une exaltation de l'instant.
D'où cet archétype du héros hemingwayen très sensoriel.
Ouais, le héros sursensibilisé, hyper conscient de son environnement physique, des détails concrets, de ce qu'il voit, entend, touche, goûte. C'est l'expérience brute qui prime sur la pensée abstraite.
Et ce style si particulier, sensoriel, basé sur l'omission, la retenue, il est forcément lié au grand thème qui traverse toute son œuvre, j'imagine.
Ah ben oui, complètement. Le style n'est jamais gratuit chez Hemingway. Il est organiquement lié à sa vision du monde, à ses obsessions, la violence, la guerre, la mort, mais aussi la recherche d'un sens, le stoïcisme et ce fameux concept de nada.
Le nada, ce mot espagnol pour rien, le néant, on le trouve où par exemple ?
L'exemple le plus frappant, et que l'analyse détaille bien, c'est dans la nouvelle « Un endroit propre et bien éclairé »,« A clean, well-lighted place ». Il y a ce vieux serveur, seul dans son café la nuit, qui commence à réciter une sorte de prière détournée, en remplaçant tous les mots importants par « nada ».
Oui, c'est glaçant. Notre nada qui est au nada, que ton nada soit nada, c'est presque liturgique, mais dans le vide absolu.
Exactement. C'est une confrontation directe avec le néant, le vide existentiel. Et ce qui rend cette scène si puissante, c'est le contraste avec la description très factuelle, très neutre du café-boue. Propre, bien éclairé, ordonné. La prose extérieure, simple et maîtrisée, rend le gouffre intérieur du personnage encore plus vertigineux.
C'est un bon exemple de l'iceberg, finalement. La surface est calme, propre, mais en dessous, c'est le nada.
C'est ça. L'art de l'omission débouche paradoxalement sur une expression très forte, même si indirecte, du nihilisme.
Et face à ce nada, quelle est la réponse d'Hemingway ? Ou de ses personnages, plutôt ?
C'est là qu'intervient ce que les critiques appellent souvent le code héroïque hemingwayen. Robert Penn Warren, encore lui, explique que, dans ce monde moderne abandonné par Dieu, où le sens fait défaut, les héros d'Hemingway essaient de créer leur propre système de valeurs, une sorte de code de conduite personnel.
Un code basé sur quoi ? Le courage ?
Oui, le courage, c'est central, la fameuse grâce sous la pression. Mais aussi la compétence technique, la maîtrise d'un savoir-faire, la pêche au gros, la chasse, la tauromachie, l'art de la guerre. Savoir bien faire les choses avec précision et dignité, même face à l'absurde ou à la mort.
Et la violence, si présente dans son œuvre, elle s'inscrit là-dedans ? Ce n'est pas juste gratuit ?
Selon cette interprétation du code, non, la violence n'est pas gratuite. Elle est souvent un terrain d'épreuve. Un lieu où le personnage peut tester son courage, sa maîtrise technique, sa capacité à affronter le danger et la mort sans céder à la panique ou au désespoir. C'est une façon de donner un sens, même éphémère, à son existence face au nada.
Une violence ritualisée en quelque sorte, encadrée par des règles, un style.
C'est ça. Il y a une discipline, un style, un code dans la manière d'affronter cette violence. Pensez aux règles de la corrida, par exemple. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que le style littéraire d'Hemingway lui-même semble être l'incarnation de ce code.
Comment ça ? Le style et le code ?
Oui, en quelque sorte. La phrase courte, précise, factuelle, sans fioritures émotionnelles, c'est l'équivalent, au niveau de l'écriture, du stoïcisme, de la retenue, de la dignité face à l'adversité que montrent ces personnages. Le style valorise les mêmes qualités que le code. La compétence, le contrôle, le courage silencieux.
C'est une idée forte, ça. Vu ce style très marqué et cette posture de code, j'imagine que la réception critique a dû être contrastée, pour le moins.
Ah, ça oui. Et c'est très intéressant de voir comment la réception critique reflète exactement cette tension qu'on évoquait au début, entre l'artiste novateur et le personnage public. Au début, dans les années 20, c'est plutôt l'enthousiasme.
Les critiques reconnaissent l'originalité.
Voté technique. Même son ancien journal, le Kansas City Star, le cite comme un des jeunes écrivains les plus prometteurs. L'accueil est vraiment bon.
Mais ça ne dure pas.
Non, ça se complique dans les années 30. Avec des livres comme « Mort dans l'après-midi » ou « Les vertes collines d'Afrique » qui sont plus des essais ou des récits autobiographiques où il se met beaucoup en scène.
Et où il commence à régler ses comptes avec d'autres écrivains.
Voilà. Il y a un ton jugé plus arrogant, plus péremptoire. Sa personnalité publique, ce personnage de Papa Hemingway, commence à prendre beaucoup de place. Et ça irrite pas mal de critiques. On commence à lui reprocher de se regarder un peu trop le nombril.
Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'attaque de Wyndham Lewis, The Dumb Ox.
Exactement. En 1934. C'est un essai vraiment au vitriol. Lewis le traite de « bœuf muet ». De simple d'esprit, d'idiot de village stylisé. Il l'accuse même d'être un simple imitateur de Gertrude Stein. C'est d'une violence rare.
Ça a dû faire mal, hein ?
Oui,
et ça marque un tournant. Même Edmund Wilson, qui l'avait tant défendu au début, commence à prendre ses distances. Wilson trouve que la prose se détériore parfois, qu'il y a des passages pourpres trop lyriques, mais surtout, il s'en prend de plus en plus à la personnalité publique d'Hemingway.
Au personnage de papa ?
Oui, ce personnage qu'il juge non seulement incroyable, mais aussi détestable. On voit bien que l'évaluation du style devient inséparable du jugement sur l'homme, sur son image. Les attaques visent autant l'œuvre que le personnage qu'il est devenu. De l'analyse en tout cas. Ce roman, publié en 1950, a été quasiment unanimement descendu par la critique américaine. On l'a traité de caricature, d'échec total.
Mais l'analyse suggère une autre lecture.
Oui, elle suggère que les critiques étaient tellement aveuglés ou agacés par l'image publique d'Hemingway à ce moment-là qu'ils sont passés à côté de ce qu'il y avait peut-être de plus intéressant dans le livre. Une forme d'auto-analyse sévère, dit la source, de ses propres échecs, de sa honte face au vieillissement, à la perte de ses capacités. La réception aurait été complètement biaisée par des raisons purement externes liées à l'image de l'auteur.
On voit bien ce parcours en montagne russe, très lié à sa capacité à maîtriser ce style si exigeant. Parce qu'il y a eu des retours en grâce quand même. Hein. Pour qui sonne le glas en 1940 ?
Ah oui, pour qui sonne le glas, c'est le grand retour d'eux. Après les critiques des années 30, ce roman est un immense succès, critique et public. On salue une nouvelle maturité, une plus grande ampleur, une dimension politique et sociale plus affirmée.
Il montre qu'il peut faire autre chose tout en gardant sa force.
Exactement. Il élargit sa palette, il prouve qu'il n'est pas juste l'auteur de nouvelles ou de courts romans très secs. Mais après ça, oui, le contrôle semble lui échapper un peu plus par moments. Au-delà du fleuve, est vraiment vu comme un ratage par beaucoup. On lui reproche les intrusions d'auteur, le manque de distance, comme s'il se confondait trop avec son personnage.
Ce qui confirme bien que ce style n'avait rien de naturel au fond. C'était le résultat d'une discipline féroce, d'une lutte constante.
Mais complètement. Le style Hemingway, ce n'est pas un don inné, c'est un choix esthétique et éthique qui demande une discipline artistique de tous les instants. Ses plus grandes réussites, ce sont les moments où il arrive à maintenir cette rigueur, cette adhésion stricte au principe de l'iceberg, cette fameuse distance esthétique.
Et les échecs critiques, ce serait quand l'ego prend le dessus, quand le personnage public envahit l'œuvre.
C'est souvent comme ça que c'est interprété, oui. Quand la discipline se relâche, quand l'auteur semble plus préoccupé par son image ou par régler des comptes que par la justesse de la phrase et la force de l'implicite. Ça demande un équilibre très précaire, finalement.
Malgré ses hauts et ses bas, et les polémiques sur l'homme, son influence littéraire reste colossale, non ?
Aux États-Unis déjà.
Ah oui, énorme. Il a vraiment redéfini une partie du roman américain du XXe siècle. Toute l'école du roman noir hard-boiled lui doit énormément pour ce style direct, laconique, ce sens du dialogue. Pensez à Dashiell Hammett, Raymond Chandler, même s'ils ont leur propre voix.
Et d'autres écrivains plus littéraires ?
Bien sûr. Norman Mailer reconnaissait sa dette, par exemple. Il y a des échos chez beaucoup d'auteurs. Et puis, il y a des influences plus surprenantes, comme celle revendiquée par Ralph Ellison, l'auteur du grand roman Homme invisible.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'Ellison admirait chez Hemingway ?
Pas tellement les thèmes, mais la technique et l'éthique de l'écriture. Ellison disait voir en Hemingway un véritable père en tant qu'artiste, pour sa précision, son amour de la langue américaine parlée, et surtout cette exigence morale de regarder la réalité en face, même la plus dure, avec dignité et sans fard. C'est une influence profonde, à la fois technique et morale.
Intéressant. Et son influence ne s'est pas arrêtée aux frontières américaines, je suppose.
Loin de là. Son impact en Europe a été considérable, particulièrement en France d'ailleurs, sur les existentialistes.
Sartre et Camus ?
Oui, Sartre et Camus ont tous les deux reconnu son importance. Sartre, par exemple, parlait d'une comparaison fructueuse entre leurs styles. Il notait comment les phrases courtes et discontinues d'Hemingway parvenaient à saisir la fragmentation de l'expérience moderne, la discontinuité du temps.
Il y voyait une profondeur philosophique, alors.
Exactement. Une profondeur que les critiques américains, parfois plus focalisés sur l'action, le personnage viril ou les aspects biographiques, ont peut-être eu tendance à sous-estimer. Pour Sartre et Camus, cette prose abrupte, ce style anti-rhétorique, c'était une esthétique parfaitement adaptée pour dépeindre l'absurdité, l'aliénation, le déracinement de l'homme moderne après les guerres. C'est devenu une sorte de langage universel pour exprimer ce malaise.
Donc, si on essaie de faire une synthèse de tout ce qu'on vient de dire en s'appuyant sur cette analyse, le style Hemingway, ce serait quoi au final ?
Je dirais que c'est avant tout une tension permanente entre une simplicité de surface, presque désarmante, et une complexité émotionnelle et psychologique énorme qui se cache juste en dessous.
L'iceberg, toujours.
Toujours ! une écriture née du journalisme et du trauma, oui, qui utilise l'omission, le non-dit, comme principal moteur pour créer l'émotion. Et c'est un style qui est indissociable des thèmes hemingwayens. La quête d'un code, d'une dignité, façonnée en façonnada.
Et on a vu aussi à quel point c'était une création qui exigeait une discipline de fer, une lutte constante de l'artiste contre lui-même quelque part.
Contre son propre mythe.
C'est exactement ça. Et c'est peut-être ça le paradoxe central de son art. Une prose qui se veut simple, factuelle, presque stoïque, mais qui exprime une anxiété profonde, une grande vulnérabilité. Un écrivain obsédé par la vérité brute, qui a passé une partie de sa vie à construire une légende personnelle, parfois très éloignée de cette vérité.
Un personnage complexe, pour un style complexe, sous des doigts simples. Mais malgré toutes les controverses, les critiques, les hauts et les bas, sa place dans la littérature, elle, n'est plus vraiment discutée aujourd'hui. Comme le dit la source, sa réputation basée sur ce style incroyablement novateur est maintenant sécurisée. Il est reconnu comme...
comme le romancier américain le plus important et le plus influent du XXe siècle.
C'est ce que dit l'analyse et je crois que c'est difficile de le contester. Son ombre plane encore très largement.
Et pour terminer, peut-être une petite question pour prolonger la réflexion, inspirée par tout ça. On a beaucoup parlé de la discipline d'Hemingway, de cette lutte acharnée pour trouver le mot juste, pour maîtriser l'art de l'omission qui fait sens. Est-ce que cette quête de clarté, d'impact, cette façon de faire résonner le silence presque autant que les mots, pourrait avoir une résonance au-delà de la littérature ?
C'est une bonne question.
Dans notre monde actuel, saturé de bruit, d'informations, de discours, est-ce qu'il n'y aurait pas une leçon à tirer de cette exigence hemingwayenne, pas seulement pour les écrivains, mais pour quiconque cherche à communiquer de manière plus juste, plus forte peut-être ?
Chercher la force dans l'économie, dans ce qui n'est pas dit, oui, c'est une piste de réflexion intéressante, effectivement. Très hemingwayenne d'ailleurs.